RCF.
Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Bonjour Yann.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nous avons, lors de nos précédentes rencontres, déjà parlé du travail. Et nous avons vu qu'il était étroitement lié à notre nature. Nicolas, vous nous avez montré la force et la dimension collective, la dimension sociale du travail. Évidemment, tout cela suppose des organisations, des règles. J'avoue que pour moi, ce sont plutôt un peu des contraintes. Je me tourne vers vous deux, mais spécialement peut-être Nicolas. Ces contraintes, qu'est-ce que je peux en faire pour qu'elles ne me pèsent pas trop? Et puis,
comment est-ce qu'il faut que... Je ne fais pas ce que je veux.
Ah, voilà.
Bon, alors, il faut commencer par dire des choses très simples. Dans une entreprise, on exerce des métiers. Pour chaque métier, il y a des règles du métier. Si on ne respecte pas les règles du métier, eh bien, on ne va pas obtenir les résultats visés. Et donc, si on n'aime pas les contraintes du métier, il faut changer de métier.
Oui, j'en aurai d'autres.
Voilà. Donc, c'est une première chose. Et donc, ces contraintes du métier, elles existent elles-mêmes, et on peut dire même qu'elles s'imposent d'elles-mêmes, et elles démontrent leur raison d'être par leur efficacité. Et donc, elles sont en général peu contestables et peu contestées. Quand on parle de contraintes, donc dans la vie de l'entreprise, on va aussi parler des contraintes de la vie en commun. Bon, dans une entreprise, donc une entreprise est faite d'un tout un ensemble de personnes, mais tout un ensemble d'équipes, de services, d'entités diverses et variées, et qui ont pour mission commune de servir le bien commun de l'entreprise. Et donc, à partir d'un objectif qui constitue en quelque sorte un principe d'unité pour l'action de chacun, de chaque personne, mais de chaque entité, de chaque service, de chaque équipe, eh bien, doivent se mettre en place une organisation adaptée.
Ce qu'on appellerait hiérarchie.
Alors effectivement, la hiérarchie, donc c'est un mot qui est souvent mal compris parce que on voit l'empilage des chefs et la pesanteur des chefs inutiles, et donc on décrit toujours les petits chefs comme étant des gens absolument abominables et qui empêchent de respirer dans les entreprises. En fait, la hiérarchie, c'est pas ça. La hiérarchie, c'est au sens propre une mise en ordre qui correspond à l'ordre des choses. Il y a une définition que j'aime bien au terme ordonné, c'est-à-dire un chef, c'est quelqu'un, si un chef est quelqu'un qui donne des ordres, ordonné, c'est au sens premier expliciter l'ordre des choses. Et donc la contrainte, d'une certaine façon, pour la vie de toute entreprise, c'est de respecter l'ordre des choses, mais aussi de respecter l'ordre des personnes. Et donc, les choix d'organisation d'un dirigeant d'entreprise doivent à la fois respecter l'ordre des choses du métier et l'ordre des choses des personnes.
Ça veut dire ordre des personnes, ça veut dire je m'incline quand le président directeur général arrive, je cire les pompes, caresse dans le sens du poil, c'est ça finalement la hiérarchie.
Si ça contribue à servir le bien commun de l'entreprise, pourquoi pas, mais j'en doute. Quand on parle donc de ces questions-là, il faut revenir à la conception chrétienne en fait de la dignité de chaque personne. Et donc ça veut dire respecter l'ordre des choses, l'ordre des personnes, c'est respecter la dignité de chacun et rendre à nouveau le rôle d'un dirigeant, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire. Et pour la vie collective, il y a une dimension dont on parle rarement, malheureusement, mais qui appartient totalement aux dirigeants d'entreprise, c'est l'intervention dans le domaine des règles de vie de la communauté de travail.
Mais ça veut dire qu'il y a un emprisonnement de la personne. En vue du bien commun qui est de servir le client, je suis soumis, donc quasiment esclave de la structure.
Alors on peut être pessimiste, mais on peut être réaliste. Le réalisme, ça consiste à penser que et à expérimenter que ce qui justifie le travail et ce qui justifie la raison d'être d'une entreprise, c'est le service. Bon, et c'est le service d'autrui, Dans tous les cas, c'est le service d'autrui. Et donc, être au service d'autrui, ça n'est pas de l'esclavage. Être au service d'autrui, c'est au contraire mettre du sens dans ce que l'on fait et mettre un sens qui peut être extraordinairement positif et enrichissant. Et donc, développer une organisation de travail qui permette d'avoir des interactions, des coopérations, des collaborations à l'intérieur de l'entreprise, en vue de rendre ce service à autrui, au fond, c'est pas mal du tout.
Mais comment est-ce possible comment est-ce possible d'arriver, et je pense que c'est là peut-être l'apport de la doctrine de l'Église en matière politique et sociale, comment est-ce possible de corriger les risques qu'il y a d'un totalitarisme d'entreprise, où finalement, on le voit, on a aujourd'hui ce qu'on appelle des work-and-click, des gens qui sont complètement absorbés et qui n'ont plus aucune liberté par rapport à ce bien commun, sous prétexte d'un bien commun.
Alors, il faudrait peut-être venir, effectivement, à expliciter ce qu'on appelle le principe de subsidiarité.
Ah oui, dont nous avons parlé à plusieurs reprises, voilà. Ça serait bien de l'expliciter.
Et qui est, il faut quand même le dire, c'est un enseignement constant de l'Église catholique, rappelé par des papes, il y a une centaine d'années, il y a 150 ans, et donc c'est un principe qui est assez ancien, mais qui est toujours très vivant, parce qu'il correspond, en fait, à la nature, à notre nature.
Alors, je vous propose de nous donner l'énoncé ou la lecture ou la définition du principe, et puis nous ferons une pause tout de suite après, et puis ça nous permettra comme ça de réfléchir un petit peu et de revenir pour continuer cette très riche discussion.
Alors, l'énoncé du principe, donc tel qu'il a été énoncé par le pape Pie XI, alors ça c'est un énoncé qui remonte à 1931, vous voyez, c'est pas d'hier, dit la chose suivante. De même, qu'on ne peut enlever aux particuliers pour les transférer à la communauté les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre une injustice en même temps que troubler d'une manière très dommageable l'ordre social que de retirer au groupement d'ordre inférieur pour les confier à une collectivité plus vaste et d'un rang plus élevé les fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. Voilà ce que dit le principe de subsidiarité, et on comprend bien que par rapport, on y viendra donc peut-être plus en détail tout à l'heure, mais on comprend bien que ce principe inverse les modes de pensée actuels en matière d'organisation.
Alors nous remettrons de l'ordre dans les modes de pensée après la pause. Alors poursuivons notre échange, mais Nicolas, je me tourne vers vous. Cette belle définition que vous nous avez donnée avant la pause, quelle lecture en faites-vous d'un point de vue de ce que vous nous avez présenté, du développement de la personne? Quelle lecture peut-on faire?
Pour moi, il y a une lecture qui est absolument passionnante et dynamique et qui s'inscrit totalement dans la vision chrétienne du travail et du développement des personnes grâce au travail et grâce au travail collectif. C'est en fait, on peut comprendre le principe de subsidiarité comme étant à la source de l'installation, du déploiement d'une culture de confiance dans l'entreprise. Le principe de subsidiarité dit que on est prêt à respecter chaque personne dans son domaine de responsabilité en lui donnant les moyens et les pouvoirs correspondants. Et donc, cette vision positive des personnes et des équipes, et qui est une vision confiante, s'oppose radicalement aux cultures de défiance que l'on constate malheureusement trop souvent dans bon nombre d'entreprises.
Si je comprends bien, M. Janson, j'essaye d'incarner vos propos. Je suis collaborateur d'une équipe, j'ai un chef qui vient me voir sur une décision importante qui me touche en partie, qui touche bien sûr l'objectif, le bien commun de l'entreprise. Il vient en parler avec moi, il me demande mon avis, parce que je suis dans mon domaine. Il montre là une confiance en moi. Par contre, s'il prend la décision tout seul dans son coin, sous prétexte de ses compétences ou avec les ingénieurs du bureau central, c'est une culture de défiance, c'est ça que vous voulez dire comme illustration?
On peut le dire effectivement de cette façon-là. On pourrait dire même de façon plus précise et plus radicale que ce qui transforme complètement l'organisation du travail, c'est pas la délégation de responsabilité, c'est la délégation de pouvoir. Ouais. Et donc, respecter les personnes, c'est les respecter dans leur domaine de responsabilité, ça suppose qu'on leur donne les moyens et surtout les pouvoirs de décision qui vont avec. Et il y a de multiples exemples de changements profonds opérés dans des entreprises qui ont ce principe comme principe fondateur du développement d'une organisation du travail dynamique. Et bien sûr, ça passe par la confiance. Ça passe par la confiance aux échelons les plus bas, on peut le dire. Cette confiance ne va pas de soi, en fait. Elle n'est pas évidente. Elle n'est pas forcément naturelle. Elle découle de la vision du dirigeant. Elle découle de sa vision politique sur ce qu'il souhaite, sur ses propres attentes vis-à-vis de la façon de faire travailler ses équipes.
Et on rejoint là, si je comprends bien, la remarque que faisait Pie XI. On est bien dans une conséquence de justice ou d'injustice quand on respecte le domaine de chacun, c'est-à-dire la justice vis-à-vis de la personne, en même temps qu'on conforte ou on détruit l'ordre social, c'est-à-dire l'objet de la communauté qui est le bien commun de la communauté. C'est comme ça qu'on peut l'entendre.
Absolument, on peut l'entendre comme ça et on peut dire que c'est un principe de fécondité plus qu'un principe d'efficacité.
Fécondité. Le mot est très fort, hein. Merci, je retiens.
Merci, et je crois d'ailleurs que nous touchons là, si je vous ai bien lu dans votre petit livre, monsieur Janson, nous touchons là à une partie de ce que vous nous raconterez peut-être une prochaine fois. Merci, mes amis.